Bienvenue à la French Connection, épisode spécial. Comme on l'a mentionné à plusieurs reprises sur le podcast régulier, nous allons parler de la gestion d'incidents dans un contexte de télétravail, confinement, info nuagique et tout le tralala, dans quelques des conditions qui sont beaucoup plus complexes qu'on est habitué de travailler dans le cas de gestion d'incidents auquel on peut juste arracher le poste de la personne des mains, Comme là, on est. Là, j'ai le monde qui rit parce que je me suis mélangé dans mon énoncé. Ça va peut-être faire ton montage ou pas. Bref, comme c'est beaucoup plus facile de débrancher des ports réseau, c'est beaucoup plus facile d'agir physiquement sur un poste infecté dans un cas où on n'est pas confiné. Quand on est confiné, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on n'a généralement pas beaucoup de gens sur les lieux qui sont capables d'intervenir rapidement, dans les délais raisonnables ou rapidement. Donc, ça amène une réflexion différente, ça amène une réflexion plus évolué, on trouve un peu plus entre autres de l'EDR, on trouve un peu plus d'infos nuagiques, comment travailler avec ces éléments-là, comment tout aborder ça. Et pour parler de tout ça, je suis avec Patrick.
Salut tout le monde.
Et Steve.
Bonsoir à tous.
Qui vont nous amener des angles très intéressants par rapport à cet élément-là. Donc, commençons, lançons la balle à Patrick qui a une expérience en infos nuagiques et gestion d'incidents dans ces contextes-là. Fait qu'il va partir la balle et on va commenter au fur et à mesure.
Yep. En fait, un de mes derniers emplois, j'ai été chanceux de tomber dans un modèle 100% cloud, autant pour l'opération de la sécurité et la gestion des incidents. Donc, ça m'a permis de voir un monde tout à fait différent qui fit 100% avec notre belle pandémie et tout le monde qui se retrouve à distance. Pour commencer, je te dirais que le gros step, évidemment, que les entreprises ne sont peut-être pas prêtes à faire aujourd'hui, mais que c'est quand même vers là que la majorité devrait aller. C'est un peu comme tu disais, là, le concept de EDR, pour la gestion des logs. Il faut avoir de la visibilité dans notre infra, peu importe comment qu'elle est, qu'elle soit dans un bureau ou maintenant 100% là, à distance, éparpillée dans les maisons et autres. Donc, on ne parle pas d'avoir des logs du réseau, mais bien de chaque machine qui va envoyer ça là, vers notre SIM et qui va créer des alertes. Ce qui est intéressant là-dessus avec la gestion des incidents, c'est que en mode pandémie, en mode à distance ou même dans un bureau, ça n'a aucune importance. On va se retrouver avec une équipe de SecOps qui reçoit des alertes, qu'ils soient chez eux, ici au Québec ou en Europe ou peu importe où. Il s'agit simplement d'aller analyser c'est quoi l'attaque. C'est sûr que le concept, comme tu disais, d'analyser les postes peut être un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut avoir le plus d'alertes possible et le plus de systèmes pour aller fouiller dans les postes. Quand on parle de fouiller dans les postes, là, il y en a de l'open source super intéressant. Puis je connais pas s'il y en a des versions un peu plus commerciales, mais on va parler surtout d'OS Query qui va te permettre là, d'utiliser un peu le concept de base de données, mais via tout l'état du poste actuel. Puis quand tu es capable de diffuser ça à l'ensemble de tous tes postes, c'est incroyable. Tu es capable de dire, ben, donne-moi la version de tous les logiciels qui roulent sur toutes les machines avec une requête, tu reçois ça, tu fais l'analyse. Évidemment, quand tu es en mode plus investigation, là, tu target tes machines, mais tu es quand même capable d'avoir un état général qui se multiplie dans le temps, là, sur toutes les machines, voir les tendances, etc. Donc, ça, c'est comme la base à avoir. Et évidemment, si tu n'es pas capable d'aller chercher le poste facilement, parce que, mettons, il faut que tu shippes le laptop pour l'analyser, mais il faut que la personne continue à travailler. Fait qu'il faut aussi qu'elle en reçoive un chez eux ou elle ne travaille plus. Fait que là, c'est un peu le choix de soit laisser la machine là ou de l'analyser un peu comme je viens de dire. Je ne sais pas si vous autres, vous avez vu des trucs un peu similaires comme ça. Nick, toi, je pense que tu es peut-être plus dans un format moins open source. Je ne sais pas si tu as vu des choses similaires.
Ben, moins open source, oui puis non. Dans lequel j'ai vu des EDH, des certains clients qui sont plus commerciaux. On va trouver comme CrowdStrike, Silence, dans ces eaux-là. Donne une quantité d'informations intéressantes, mais encore là, on est quand même à la merci de ces fournisseurs-là puis de leur schéma de détection. Donc, ils n'ont pas une visibilité aussi complète. Le plus loin que j'ai pu aller. Pas Escoiri, j'aurais bien aimé ça, jouer avec ce genre de choses-là, mais Sysmon, à la limite, nous permet quand même un degré de visibilité intéressant qui nous permet d'investiguer, mais plus a posteriori, parce que Sysmon n'est pas très préventif en termes d'approche versus un,
ouais, ouais.
un vrai EDR ou un vrai NG EV là, qui est un peu plus réactif. Mais là, c'est sûr que quand on parle d'un incident, là, c'est juste trop tard, ça a explosé chez vous.
Puis ouais, tu dois être en mode actif. Là. Exact. Fait que ce qui est cool du OS Query, c'est que c'est ça, tu tombes en mode réactif, actif, que tu fais ta recherche live. Puis comme je disais, tu peux la faire en mode passif aussi avec des rapports, des queries qui se font à chaque 20 secondes, si tu veux. Fait que tu peux faire de la détection en plus, pousser ça dans tes sims, faire des alertes et tout. Fait que tu sais, ça sert dans les deux sens. Ça c'est quand même vraiment bien. Je te dirais que l'autre point, élément technologique, si je peux dire, qui est vraiment utile, mais qui est un challenge énorme dépendant du type d'organisation, mais c'est le whitelisting des applications. Nick vient de partir à rire, mais il y a une manière de faire ça super simple. Mon ancien emploi, c'est ça qui ont mis en place et de manière manuelle, sans aucun outil externe. Vraiment, là, ils l'ont développé. Évidemment, c'est un développement constant. Puis, si on peut dire, au Québec, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on n'a pas de security engineer, là, des développeurs de sécurité. C'est quelque chose de presque inexistant. Dès que vous sortez de la province, c'est 80% du monde qui travaille en sécurité. C'est pas mal ça qu'ils font. Ils font du développement en sécurité. Fait qu'on avait une équipe, je pense, qui était 6 ou 7 à développer constamment des logiciels pour les SecOps, pour faire du incident response et autres. C'est ça qui a fait une différence majeure. Là. C'est une équipe petite, puis quand je rentrais là, ils faisaient, je sais pas, là, 200 fois plus que toutes les entreprises que j'avais vues avant, avec des data centers puis des équipes de 40 personnes. Oui, c'est qui leur coûte cher parce qu'ils achètent des logiciels à 200 000 un par-dessus l'autre, puis ça n'arrête plus. Puis eux ont fait l'équivalent avec des solutions plus simples, mais qui vont à l'attaque là, de ce que tu as besoin. Fait que le OS Query, le EDR, puis justement le concept de whitelisting. Mais le whitelisting, ce qui est cool, c'est qu'ils l'ont fait intégrer 100% cloud. Fait que sur ta machine, quand tu roules quelque chose, une application, ça te pop. Est-ce que c'est bien toi qui l'as roulé? Tu reçois ce message-là dans Slack. Fait que tu pourrais pousser ça dans Teams, dans n'importe quoi d'autre. Tu disais oui ou non. Si c'est non, ça envoie un message à l'équipe de sécurité disant ben là, ça va pas bien, c'est un piratage en cours. Si tu dis oui, ça ajoute la signature de l'application dans le whitelist et tout le monde a le droit de rouler l'application. Le concept est super simple. Je dis pas que ça prend 10 minutes à faire. Là. Il y a beaucoup de devs en arrière de ça. Puis vu qu'il était beaucoup macOS et Chrome, il utilisait tous les logiciels, je me semble que c'est Santa là, que Google a développé open source. Fait que ce qui est cool, justement.
Ah, ça, c'est funky, ça,
malheureusement. Oui.
Il n'y a pas de GUI avec ça. Fait que si tu n'es pas un dev, là, Santa, tu veux juste mourir.
Oui, tout à fait. Puis il n'est pas simple parce que pour avoir parlé, le concept, je viens de dire, est super simple. Le concept technique est vraiment pas simple. Pour avoir parlé avec beaucoup des devs qui ont travaillé dessus. Qui m'expliquait les bugs qu'il y avait. Tu sais, ça a été développé par Google. Là. C'est pas final, mettons, comme produit. Mais ça marche peut-être un bon 80-90%. Le seul problème qu'ils rencontraient, c'est qu'il y a beaucoup d'applications qui n'ont pas de signature. Ils n'ont pas de certificat, qui n'ont rien. Fait que là, tu te ramasses à... Il faut qu'ils guessent un hash, quelque chose. Mais là, à chaque fois qu'ils run, des fois, il y en a qui se modifient, qui changent, etc. Fait que c'est un petit peu le bordel pour ces applications-là. Mais quand la culture de l'organisation fit avec ça, puis que 90% des logiciels sont déjà installés, généralement, c'est pas si pire. Fait que c'est ça le concept, c'est que tu reçois une whitelist d'applications à chaque quelques secondes, je pense, sur ton poste. Et si tu downloads quelque chose, ben, l'autre à côté peut le rouler finalement tout de suite après. C'est assez intéressant. Je te dirais les seuls problèmes.
Ils crowdsource tout le whitelisting.
Oui, exact. Fait que tu sais, si tu as quelqu'un qui a besoin de rouler Burp Suite, la première fois que tu le roules, tu as reçu oui ou non, c'est est-ce que c'est bien toi. Quand tu dis oui parce que c'est un logiciel légitime, ben, tout le monde considérait que ça, c'est un logiciel légitime. Et ce qui est intéressant du whitelist, c'est que ça empêche énormément de drive-by attaques sur des downloads que tu fais sur le web. Et ou des downloads que tu vas faire sur les courriels. Si tu as un script qui s'exécute de, je dis n'importe quoi, mettons PowerShell, mais tu viens d'ouvrir un document de Word, ben non, c'est pas toi qui as exécuté du PowerShell, là. Tu viens d'ouvrir Word. Fait que quelqu'un, c'est sûr que tu peux avoir des faux positifs, tu te trompes, etc. Là, mais tout ça va avec, mais ça réduit beaucoup le pourcentage de chance que quelqu'un dise, ben oui, j'ai roulé PowerShell. Fait que tu vas dire non, l'incident va s'en aller.
Comme tu dis, là, ça prend vraiment un temps pour être capable de déterminer. Là, fait ton baseline, ça ne se fait pas en deux jours. Une fois que tu as décortiqué le logiciel, que tu l'as installé, il faut vraiment que tu donnes des mois, vraiment, pour ne pas dire un an, si le temps le permet, évidemment, d'être capable de faire ce baseline-là.
Exact. Fait que tu sais, tu as raison. Le concept d'intégrer ça dans une entreprise qui est déjà grosse, et pas la même chose que dire ben on est trois puis on start ça demain, c'est pas grave si on installe le shell puis je me fais bloquer. Si on a déjà 2000 logiciels installés, ben c'est, si demain matin j'ai 2000 blocs, il y a beaucoup de monde qui vont chialer. Fait que le concept...
Non, ça va te faire des amis
de
plus.
Beaucoup d'amis, oui. Beaucoup de contacts. Amis, c'est d'autres choses.
Voilà.
Mais le concept, c'est de faire de mettre le shell, puis je pense qu'il y avait un mode, je peux pas vous dire les détails, là. Mais le mode de le mettre comme un peu en debug, que ça bloque rien, mais qu'il va ramasser toutes les signatures pendant, je pense, c'était 3 mois, là, la manière qu'il l'avait fait. Puis après ça, ben là, tu le roules officiel en mode bloquant, etc. Fait que tu es capable de le mettre on and off, mais qui est toujours actif. Fait que ça, c'était très intéressant. Ça peut se faire.
Question par rapport à ça, puis tu étais quand même dans une compagnie qui était relativement technologique.
Oui.
Donc, c'est des gens qui sont vraiment un peu plus éveillés que la moyenne sur ce qui se passe.
Je te dirais que c'était 50% de l'entreprise. Fait que c'est beaucoup une question de maturité. Ben, pas de maturité, mais de culture. Fait que tu sais, 50% de l'entreprise qui est tech sa vie en sécurité, c'est sûr que ça aide à pousser ça. Je dis pas le contraire. Versus si tu tombes dans une entreprise que vous êtes 10 en sécurité puis 2000 non en sécurité, ton mode debug à off, à on, risque d'être là un peu plus longtemps que prévu.
Mais ça a plus de tolérance quant à l'acceptabilité une fois que tu le déploies. Là.
Oui, mais tu sais, tu as moyen de pousser ça, de créer ta whitelist, comme tu dis, sur un an, puis après ça, tu le déploies pas à tout le monde. Tu peux le déployer à un groupe, là, tu fais la culture avec eux, à un autre groupe, etc. Ben, y a moyen de faire quelque chose de beau avec ça. Mais il faut que tout ça fonctionne ensemble. Il faut qu'autant que tes logs sur tes machines de OS Query qui s'en vont, que ton EDR, peu importe lequel que c'est, envoie tes logs, que tu aies ton équipe SecOps en arrière qui check. Tout ça soit proactif dans le sens que ta culture de sécurité va avec aussi. Là. Si tout le monde rejette le fait qu'il faut qu'ils fassent oui sur le message qu'ils reçoivent quand ils ouvrent une nouvelle application, tu reçois des plaintes à tous les jours, c'est parce que ton intégration n'a pas fonctionné. Il faut vraiment que tu l'étales sur plus longtemps avec des groupes d'utilisateurs, de la pub, des formations, etc. Tout va avec, là, évidemment.
Mais c'est pas simple. De toute façon,
non.
Manipuler un EDR un peu, le niveau de faux positif qu'il y a avec ça est quand même assez fantastique. Là. Fait que ça prend une bonne dose d'apprentissage et de connaissance de son environnement aussi. Là, parce que, entre autres, une des alertes que j'ai vues dans les EDR, c'est que tu as une application signée qui interpelle une application non signée dans un environnement Windows, ce qui n'est pas anormal dans certaines mesures. Donc, c'est tout surveiller ce genre de situations-là qui sont spécifiques à un...
Des fois, ça peut être normal parce que justement, l'application n'a juste pas de signature puis c'est poche puis c'est ça. Mais ça reste que c'est ça, ton équipe reste sur le qui-vive comme ça. Mais pourquoi j'ai apporté le concept du whitelisting? C'est parce que malgré la difficulté là, des devs à mettre ça en place, ça reste une solution avec moins de faux positifs que d'aller avec un full EDR de l'autre bord. Mais ça prend en compte le fait que la majorité des attaques à gros impact, c'est du phishing. C'est là un peu l'avantage d'aller de ce côté-là. Mais évidemment, dans tous les cas, je dis ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr.
Énormément, surtout que les attaques que j'ai vues, les traces dans les EDR, c'est toutes des PowerShell qui partent avec du fireless puis des affaires assez funky. Fait que même le whitelisting, je ne sais pas dans quelle mesure a une efficacité contre cette nouvelle tendance-là.
Ben, techniquement, puis là, c'est aussi un enjeu. Quand tu es dans une fleet plus Windows, si tu dis ben j'alerte ou je bloque PowerShell, ça se fait. Mais ça se fait si ton environnement ne roule pas de PowerShell. ça dépend de l'entreprise énormément. Là.
C'est ça. Là. Toute entreprise moderne va utiliser du PowerShell. Puis, de toute façon, Microsoft pousse les IT à faire énormément de PowerShell parce que tout se gère comme ça. Puis moi, vraiment, tu bascules en plus dans Azure, 50% des configurations sont en PowerShell, sont pas dans le GUI. Là.
Non, exact. Fait que, c'est pour ça que le côté attaquant est 100%, est énormément PowerShell quand on va faire des dumpés, des Windows AD, des choses du genre. Puis de l'autre, ben, tu as ta défense qui fait les mises à jour d'Azure, etc.
PowerShell juste aussi. Paquet, je lève des alertes dans l'ADR, dans un des sites que je regarde. Oui, parce qu'il colle un certain PowerShell dans certain ordre. Ce qui fait que ça lève des alarmes dessus parce que c'est. Faudrait que je regarde là, c'est quoi l'alerte en spécifique, mais ça lève, je pense, il décèle ça comme un PowerShell masqué qui se déclenche de façon non légitime. En tout cas, c'est weird, là.
Oui, ouais, tout à fait. Fait que c'est pour ça que je dis ça a l'avantage du côté courriel, mais ça a le désavantage que si tu utilises ça tout seul, ben, t'as pas ce que tu viens de dire. Fait que le EDR vient compenser de l'autre bord. Fait que c'est les deux choses à avoir. Puis là, ben, on tombe dans le contexte que ramasser ces logs-là à distance, pas toutes les compagnies qui sont setupées en cloud, la majorité sont setupées en VPN. Fait que là, ça te force à dire que tout le monde doit être obligatoirement sur le VPN pour pousser les logs. Ça te fait du log en maudit sur un VPN. Ça aide pas ton organisation à être stable parce que la majorité présentement se rend compte qu'ils sont même pas capables de gérer leur infra. Ils étaient habitués à avoir 10 personnes en VPN, là, sont 2000, tu sais, c'est. Puis j'ai eu des discussions récemment d'organisations là, à des milliers d'employés. Là. Ils sont super bons technologiquement. Mais le VPN, il écrase. Là. Personne ne dit hey, demain matin, on va être 40 000. Non, c'est pas vrai. Là. Ça n'a pas été designé.
Ouais, puis ça l'amène tant qu'à faire un petit aparté là-dessus. Surtout la discussion du BIOD, split tunneling, toutes ces notions-là qu'on en sécurité, on a longtemps refusé d'adhérer parce qu'on avait peur de tout ce que ça apportait. Parce que c'est compliqué à gérer. Ça se gère, mais c'est compliqué. Puis il faut réfléchir. Et là, on est confronté à tous ces environnements-là. Maintenant, on va devoir tolérer dans un contexte sécuritaire. Et ça, c'est plus difficile.
Oui, mais sur papier, ça reste simple à faire. La mise en place, quand tu pars de zéro, c'est énorme parce que là, tu te ramasses que toute ta sécurité de ton SecOp, c'est dans un réseau interne fermé. Puis là, faut que tu leur dises, hey, mets ça dans le cloud, puis il faut que ça soit accessible par tout le monde, etc. Même si tout le monde dans l'entreprise dit oui, puis accepte, puis légal, etc., tu pars de zéro. Là. Je veux dire, il faut tout que tu copie-colles, puis ça se copie-colle pas, évidemment. Il faut tout que tu fasses.
La portion que Nick, il me fait peur avec, là, c'est justement le niveau de tolérance, la gestion de risque. Là, tout d'un coup, c'est un risque qui n'était pas acceptable, mais parce qu'il y a une urgence, là, c'est rendu à ce que ça devient tolérable. On sait très bien que quelque chose qui est temporaire en informatique devient souvent permanent. Puis ça me fait peur beaucoup, alors que il y a beaucoup d'organisations qui font fi justement de ces menaces-là. De vulnérabilité, je devrais dire, excuse-moi. Puis qu'après ça, ben là, ça devient ça a marché, on n'a pas eu de trouble, là, ça fait 4 mois qu'on roule ça. Laisse ça de même. Ça devient la norme.
Puis tu l'as dit, c'est en mode urgence.
Ben oui.
Puis mode urgence, c'est pas on fait ça comme faux, on fait ça vite pour que ça marche, parce qu'il faut que l'entreprise marche. Mais tu tombes en mode temporaire.
Oh, oui. On connaît la culture d'entreprise. Tout ce qui est de temporaire. Ah ben là, j'y passe, ça marche, laisse ça de même, on va faire notre documentation. En conséquence que c'est comme ça. Christy, ça tient
ça
pas.
D'un, ça arrive jamais.
Je vais attaquer un breach.
Exact. Puis, tu sais, quand on parle que la société va changer, ça va être à cause de ça aussi. Il n'y a pas beaucoup de monde, ben pas beaucoup, il va en avoir, mais beaucoup de monde qui va dire, moi, je ne retourne pas, je reste remote. Là. C'est quoi l'intérêt? Je peux faire ma job. Fait que tout ça va débouler avec la technologie en plus. Là. Fait que c'est pour ça que c'est important de parler de ça, je pense, ouais.
Il y a beaucoup de réflexions à avoir sur ce genre de choses-là. Puis là, on dévie un peu de la gestion de l'incident. Fait qu'on va laisser ça à un autre podcast ou peut-être au prochain live. Ce genre de notion-là du BIOD. Puis ça va soulever assurément les passions. Mais dans le contexte, puis là, ce que tu n'as pas encore abordé, c'est toute la volée de gestion de l'incident dans le nuage. Parce que on bascule. Puis de toute façon, là, c'est pas un grand secret. Gouvernance Québec ont basculé énormément de leurs services dans l'informatique d'un coup sec.
Ouais.
Pour réussir à permettre le télétravail, puis pas juste le gouvernement du Québec, là, mais c'est l'environnement que je connais le plus. Beaucoup de joueurs basculent sur ça. Là, Teams, entre autres, chez Azure, est énormément mis de l'avant. Zoom, qui a de la débâcle parce qu'ils sont devenus ça. Google, peu importe le service que vous utilisez pour faire vos choses. Mais ça amène aussi des défis au niveau de la gestion d'incidents, puisqu'on trouve dans souvent des services qui sont des services SaaS, dans lesquels l'accès à l'information, elle est limité. Donc, ça vient probablement changer un peu la façon. Puis c'est ça aussi, tu as probablement été confronté à ça. Là.
En fait, tu as comme volé mon punch un peu. La grosse problématique de faire la gestion d'incidents dans le cloud, mettons que tout était setupé comme faux, tu as tous tes outils de SecOps pour faire les analyses de courriel, etc., que j'en reparlerai dans quelques secondes, c'est que la documentation n'est pas vraiment là. Les systèmes ne sont pas vraiment faits pour faire la gestion aussi intense qu'à l'interne. Fait que, si tu prends Google Suite pour gérer toute la suite Google, les courriels, Drive, etc., tu as un côté entreprise en arrière avec un dashboard puis tout l'outil, etc. Mais il manque des options là-dedans, c'est incroyable. Là. Si t'es quelqu'un de ferré en SecOps puis en Incident Response, c'est sûr qu'après une journée, tu vas dire ben il manque une liste d'infos incroyable ou d'accès ou de choses. Fait que ils sont en constant développement là-dessus parce que c'est même pour Google, je veux dire, c'est nouveau pour eux autres aussi parce que même s'ils offraient ça, c'est pas les entreprises majeures qui disaient ben moi, mon SecOps, c'est 100% remote. Là, ça le pousse encore plus, fait qu'on risque d'avoir beaucoup de changements là-dessus. Mais je te dirais, la meilleure approche, ben, c'est de lister tout ce que tu as besoin d'accéder. Puis généralement, le premier enjeu que vous allez avoir, c'est les accès au courriel. Quand tu as des courriels, le courriel, c'est peut-être un peu moins pire parce que la majorité du monde était peut-être déjà dans le cloud, mais ça reste que la majorité n'était pas en mode SecOps dans leur courriel. Je ne suis pas sûr qu'il y ait bien du monde qui était top-notch à ce niveau-là. Comment tu supprimes un courriel qui est envoyé à 12 000 personnes dans ton organisation? Légalement, sans l'ouvrir, sans checker, sans savoir il appartient à qui, puis que l'organisation signe dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, si vous nous écoutez, vous pouvez paniquer juste en pensant à comment gérer ça. Si le légal embarque, généralement, c'est assez simple, mais c'est simple sur papier parce que là, il faut que tu aies le code pour le faire. Allez sur GitHub, il y a 12 000 codes PowerShell pour déléter les emails d'Azure, puis il y en a pour Gmail, etc. Ben là, il faut que ton code soit sûrement approuvé, il faut que ce soit testé, etc. Fait que c'est pas de la magie.
Bon, on revient un peu, puis on en avait parlé dans le dernier podcast avec Steve, d'ailleurs. C'est tout le fait de préparer. La préparation en amont est un élément très important et cette absence de préparation-là des organisations à gérer, surtout dans une notion de cloud, parce que, un, il faut effectivement que, généralement, quand on touche à des courriels, que le légal soit pas loin, parce qu'il doit avoir un chemin, donc il va avoir un playbook pré-approuvé pour qu'on ait un chemin déjà préfait pour pas que ça prenne 3 jours avant d'avoir l'approbation, parce qu'après ça, il est juste trop tard.
Non, exact. T'sais, si on parle d'un phishing qui est, mettons, très targeté à, je sais pas, 50 personnes sur une organisation de 1000, c'est un petit pourcentage. Mais si c'est super targeté, ça veut dire que la majorité du monde devrait cliquer dessus parce que c'est réel, etc. Si quelqu'un te l'envoie ou tu le détectes, peu importe, techniquement, c'est les 5 à 20 premières minutes qu'il faut que tu agisses. Après ça, tout le monde a cliqué ou tout le monde n'a pas cliqué. C'est un ou l'autre. Puis, tu sais, pour avoir fait des campagnes de phishing très avancées, puis du spear phishing, la majorité des clics, c'est en bas d'une minute. Puis même ma première fois que j'ai fait ça dans une job de consultation, j'ai eu un shell après 30 secondes sur mon premier email que j'ai envoyé dans toute la campagne. J'étais comme, mais non, c'est buggé, là, ça marche pas, cette affaire-là, qu'est-ce que c'est ça? Genre, la renvoie à la même personne, elle clique encore dessus, 30 secondes. Je dis, ah non, ça marche. T'sais. Mais au-dessus de 2 minutes, jamais eu un clic. Faut que tu fasses un suivi à la personne, puis là, se rend compte que tu insistes, puis ça marche pas. Fait que oui, il faut que tu aies les outils en place. Je te dirais, une des bonnes affaires pour le courriel, c'est d'avoir un logiciel développé à l'interne, testé, etc. Puis ça, je veux dire, ça peut être du code d'en dehors, là, mais que vous l'installez, configurez pour votre infra, que le légal signe dessus pour dire, ben tel courriel, qu'il y a tel nom exact qui est envoyé entre telle heure et telle heure, j'ai supprimé tout, oui et non, là, ça les liste. Puis, tu sais, il faut que tu ailles de l'audit aussi en arrière de ça. C'est pas juste de savoir, j'ai supprimé 20 courriels, c'est qui les a supprimés, à quelle heure, etc. Faut que cette trace d'outil-là soit multipliée en plusieurs. Fait que c'est pas juste d'aller downloader le code de 20 lignes sur GitHub, là, c'est de faire toutes les autres étapes après qui prend le temps, malheureusement. Puis ça, ben, ça s'applique sur tous les vos systèmes, en fait, là, que ce soit autant courriel, etc. L'autre partie à discuter, ben, c'est de la même chose qu'un incident response normal, de faire des tests, des tabletops, des vrais incidents, de faire les choses pour tester ces outils que vous venez de mettre en place là, les processus, les playbooks, etc. Nous, on en faisait beaucoup de tabletops, soit 100% tabletop ou des 50%. 50% étant super intéressant dans le sens que tu vas mettre des vrais indices de compromission dans les courriels. Puis tu vas avoir du monde impliqué dans l'organisation qui vont envoyer des vrais courriels faussement compromis, qui vont envoyer des SMS, qui vont appeler, qui vont se faire passer des clients, etc. Puis que juste toute l'organisation doit embarquer. Là.
Juste pour confirmer, c'est vrai, vous faites ces exercices-là avec des équipements prod en info nuagique. Là.
Full prod, ouais. Je te dis pas qu'on va modifier le code en prod, mais on va dire le code a été modifié, puis on va peut-être mettre une ligne à quelque part qui dit ceci est le code modifié. Ou souvent, on prenait un screenshot du vrai code, on le modifiait, on le donnait comme ça. Puis quand la personne arrive, elle dit ben moi, je suis en train de regarder le code, ben là, tu y pousses l'indice réel. Comme ça, mais souvent aussi, on va mettre un infra qui ressemble au vrai, mais qui est dupliqué à côté, avec des bugs dedans, des affaires qu'ils doivent rechercher, qu'il y a un domain name qui est là avec un IP qui est caché. Là, il faut qu'il fasse du threat hunting dessus, etc. Fait que c'est un mix de réel et de faux. On a déjà fait même des screenshots fakés. Là. Je me suis amusé pendant une heure dans Photoshop avec Troy Hunt qui disait que l'entreprise avait leaké telle info. Fait que là, t'as le PR, le marketing, les CEO qui viennent à ta table pour vrai. Ils sont obligés d'être là. C'est un vrai incident. Faut que tu traites ça réellement. Fait que VP de marketing qui s'assied puis qui deal avec son PR de Twitter. Fait que c'est jusque-là qu'il faut aller. Puis quand on dit de tester l'info nuagique, ben, il faut que tu ailles chercher les vrais logs sur la machine. Fait que généralement, on avait une machine qui avait des logs dessus. On envoyait des vrais courriels que la personne, on y disait, là, tu délites les posts, c'est pour l'exercice. Fait que là, il fallait qu'il aille le chercher, il fallait qu'il aille l'analyser, après ça, il fallait qu'il supprime partout, etc. Fait que c'est un peu dans ce sens-là que ça se fait. Pas facile, mais je te dirais qu'après, j'ai fait ça pendant peut-être un an et quelques. Puis le premier, c'était rushant. Après ça, les équipes, on était rendu une quinzaine à la table, ça roulait là. On planifiait 4 heures, des fois, des exercices qui se faisaient en 1 heure. C'est vraiment cool comme concept.
Très intéressant. Puis c'est justement ben, dans ce sens-là, tu m'as pris un peu de cours parce que j'allais justement te faire basculer vers comment entraîner les gens à gérer ce genre de choses-là. Je sais que dans nos éditeurs, on doit avoir un peu de tout, des gens qui sont aguerris là-dedans et des gens qui commencent, puis ou des organisations qui commencent aussi en info nuagique. Donc pour elles, c'est un peu un environnement un peu nouveau d'avoir à affronter ce genre de choses-là. Puis surtout que les logs, pour avoir joué. Les seuls que j'ai pas joué avec, c'est Google, j'ai joué avec Amazon, puis j'ai joué avec Azure. C'est à géométrie variable. Donne des fois assez, des fois pas assez. C'est difficile parce que le niveau de journalisation, surtout parce qu'on est habitué on-prem, où on est d'un niveau de détail, des fois, qui est extrême, parce qu'on sait quasiment à quel moment la personne est allée pisser. Dans l'info nuagique, c'est un peu plus difficile de savoir à quel moment le nuage a leaké.
Oui, tout à fait. Puis tu sais, quand on parle de ces logs-là aussi, c'est pas juste votre plateforme d'info nuagique, c'est tous les systèmes et services tiers que vous utilisez qui ont un concept d'entreprise. Si vous avez un password manager qui est enterprise, puis qu'il y a des logs en arrière que tu peux qui peuvent être compromis ou que tu veux voir du data pour savoir justement qui a fait quoi à quel moment. Que tu y aies accès. Si tu as un third party, que tu as des données dessus, peu importe, là, pour aller justement ton EDR, des fois il est dans le cloud, tu as des trucs dans le cloud, ton SIM est dans le cloud. Fait qu'il faut que tu penses à l'accès à ça, obtenir les accès, mais les données. Ouais. Et à partir de là, ben, tu as aussi tout le concept de hiérarchie de qui fait quoi. Ça, c'est le plus important dans tout ce qui est incident response. et que ça doit être défini d'avance. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait un incident où ce que personne ne sait qui fait quoi. C'est pas beau. Et j'en ai déjà fait un, mais histoire courte, c'était dans un stage débutant. Première job ever, c'est moi qui l'ai géré l'incident. Juste pour te dire que c'était n'importe quoi. Fait que c'est le genre de choses qu'il faut que soit planifié d'avance. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que souvent dans un incident, c'est pas parce que c'est un junior qui a 22 ans qui lead l'incident que tu dois pas l'écouter. Ça se peut que le gars soit super bon sur telle petite affaire puis qu'il lise son checklist. Puis que ça fait moins longtemps qu'il est là que le senior, qui est, peut-être qu'il en sait plus ou pas, mais que c'est pas ça son rôle. Il faut que ça soit écrit si tu veux pas que le monde se batte aussi. Il y a tout ce beau concept-là.
Oh boy. Ah, il ne faut pas s'appuyer nécessairement sur la connaissance des gens pour exécuter ça parce que
justement, non, exact.
Si tu as l'expert qui connaît tout ton environnement et qui n'est juste pas disponible au moment de l'incident, tu vas être cuit.
Ah ouais.
Pour faire ça.
Ça, j'aime que tu apportes ce point-là parce que c'était un des trucs à gérer dans nos tabletops. Parce que généralement, les exercices sont planifiés d'avance. Fait que tout le monde, on sort, pas tout le monde qui le sait qu'il y a un exercice, mais ceux qui organisent l'exercice, c'est que tout le monde va être là, c'est telle journée, etc. Mais après un moment que tu fais plusieurs exercices, tu te rends compte que le knowledge des exercices, c'est mettons dans un groupe de personnes qui se ramassent tout le temps dans les exercices. Qu'est-ce qui arrive si la moitié de ce monde-là est malade ou qu'ils sont en conférence à quelque part ou que présentement, le mot malade est très important, là? Qu'est-ce qui peut arriver dans ce temps-là? Fait qu'on l'a planifié, on en a fait une ou deux où c'était, je me souviens plus, c'était dans le temps du un peu ou avant DEFCON, là, mais c'était des grosses conférences, puis la moitié du monde n'était pas là. Les boss n'étaient pas là. Fait que quand tu montes la hiérarchie et tu dis ben c'est lui qui décide, ben il répond pas à ses courriels. Même s'il était présent, on lui a dit non, toi, t'es pas là aujourd'hui. Parce qu'il y a certains boss qui ne pouvaient pas évidemment pas être là. Fait qu'il y en a qui ne répondaient pas. Là, il y en a un qui a bypassé notre règle, s'est levé et est allé le voir. Il a dit non, je suis hors exercice. Mais tu sais, il a fallu aller jusque-là pour que le monde trouve c'est qui la deuxième personne. Puis là, tu te rends compte que ta hiérarchie dans ton playbook de qui fait quoi, il va te manquer des morceaux, c'est sûr.
Ou les morceaux, justement, vont commencer à être dilapidés là, un peu partout. Là, puis si tu n'as pas été des fois trop assez profond dans ton plan de succession. Il y en a qui vont dire, bon, ouais. On va juste se mettre trois backups, ça va être en masse. Non. Il faut que tu y ailles jusqu'au simple exécutant en bas. Comme tu dis tantôt, l'étudiant qui est ici temporaire, si c'est lui qui arrive en premier puis qui voit tout ça, c'est quoi sa responsabilité?
Oui, exact.
Ouais.
Puis ça peut être autant, le décideur que la personne technique. T'sais, si tu as personne qui est capable d'accéder au log, c'est pas comme un système de log marche, t'es dans la boîte. Puis souvent, tu vas te retrouver dans la situation que le système que je parlais tantôt, mettons, pour déléter les emails, ben, tu as deux personnes qui le connaissent, puis tu donnes pas l'accès à tout le monde là-dessus. Les deux sont malades, tu fais quoi? Fait que là, il faut que tu aies plusieurs boss par en haut qui aillent les accès en backup, puis qu'il faut que tu sois trainé d'avance pour savoir comment ça marche, même si habituellement, ils n'ont aucun accès à ça.
Une petite enveloppe scellée avec challenge. Tous les codes, tous les mots de passe par défaut là, des systèmes, c'est toujours bon, ça.
Ouais, des codes breaking glass, ouais, ben, il y a, entre autres, ce genre de notions-là qui doivent être mises en œuvre. La possession des breaking glass aussi est une notion très importante.
Oui.
Si vous êtes capable de l'avoir sur plusieurs sites géographiques différents, ça aussi, parce que, tu sais, on va juste se rappeler la crise du verglas à Montréal, puis il s'agit que l'île où on peut même ramener avec le COVID à l'heure actuelle, où il y a eu pendant une courte période une menace que l'île de Montréal soit fermée littéralement.
Ben, je veux dire, il y a des régions fermées officiellement. Hein. Il y en a qui 5-6 présentement qu'on ne peut pas y aller. Fait que...
Mais c'est pas fermé ou comme Montréal aurait pu être fermé. Si Montréal avait fermé, ça aurait fermé avec l'armée. Ouais. Les secteurs auraient. Même à l'intérieur de l'île, ça aurait été fermé. Contrairement, là, on a juste des régions de fermées.
Ouais.
Mais dans un contexte de cette nature-là, puis j'ai fort l'impression qu'on va en avoir d'autres. Là, on s'énerve beaucoup avec cette pandémie-là parce que pour une raison que je ne suis pas capable d'expliquer encore, on donne encore plus de valeur à ce risque-là, contrairement à disons, l'influenza ou peu importe. Là, il y a comme un changement, un shift de perception du risque qui est associé à ça. Donc, ce chiffre-là est fait. Mais tant que c'est fait, les prochaines grippes, les prochaines affaires, on va embarquer exactement dans le même protocole. Fait qu'il faut, c'est sûr, faut être prêt à ce que ça arrive, tout ça. Là. C'est là où toute l'expérience militaire de Steve a là, une valeur inestimable.
Mais pourtant, personne ne m'appelle. Je suis tout seul chez nous.
C'est bien, t'es un héros, tu restes chez vous.
Oui, je sauve du monde, comme on dit. Là. Non, mais ça me fait. Quand, ouais. De manière que tu le comptes, Nick, ça me fait penser, ça me ramène lorsqu'on se préparait pour l'an 2000. Puis oui, le verglas, ça a été unique en soi, parce que là, tu avais des infrastructures physiques là, qui étaient vraiment inaccessibles. Là, puis c'était, tu sais, quand Montréal était à 6 heures de manquer d'eau, puis que là on se regardait toute la game, fuck. Puis le mot d'ordre dans le service des incendies, c'est que tu laisses brûler la maison, tu détruis la maison à gauche, à droite de celle qui brûle, tu laisses ça là, tu passes un autre appel. Tu sais, ça n'était des mesures drastiques, puis que c'était pas écrit nulle part, là. Ils ont juste été au gros bon sens des choses. Fait que, si on regarde ça, je pense que les leçons s'écrivent au fur et à mesure que ça évolue, puis ça, c'est pas une bonne affaire. Mais je ne crois pas qu'il y ait de post-mortem qui va se définir. Tu sais, le verglas, c'était simple. Il faut le rebrancher, redonner l'électricité, puis reprendre la vie après ça. Ça a été l'objectif, ça a fonctionné. Puis après ça, il y a eu des... on était capable de faire des lessons learned, puis après ça, faire... OK, on va améliorer notre façon de vivre, notre façon de faire de cette façon-là. La ligne RT des cantons a été tracée, ça a été monté. Bon, là, une redondance de plus pour la boucle de Montréal. Fine. Mais par contre, dans le COVID-19 actuel, là, on change drastiquement les approches de tous les gestionnaires à tous les niveaux, gouvernemental, municipal, entrepreneurial. Je ne sais pas jusqu'à quel point les gens ils vont le faire, le changement. Je n'ai pas cette assurance-là que, comme on dit entre nous autres, les gens vont faire le changement qui s'impose pour ne pas se faire reprendre les culottes à terre. Puis je ne sais pas, je ne peux pas mettre le doigt dessus. Là.
Ça va dépendre de la longueur du confinement. Tu sais, si ça finit demain matin, ça fait 35 jours, je ne sais plus exact. Là. L'impact que toute la société soit modifiée, assez faible. Ça t'offre 3-4 mois, ça risque d'être plus gros parce qu'il y a des entreprises qui vont tomber, tout le monde va être obligé de réagir, les attaques vont commencer, il y a beaucoup de choses qui vont arriver.
Moi, j'y vais avec le plan, les plans du que j'ai lu du Pentagone, là, puis c'est 18 mois. Là.
Oh oui, c'est du 12-18.
Fait que,
mais en même temps, c'est ça le plan de revenir graduellement.
De toute façon, là, Trump va faire un décret présidentiel, puis le COVID va s'en aller.
T'as raison, Nick. Merci, j'avais oublié celle-là. Oui, c'est un fait. Puis, il y a une arc-en-ciel qui va apparaître au-dessus d'Ottawa avec des licornes.
Tout à fait.
L'arc-en-ciel va aller jusqu'à Lake Harrington. Parce que faut la bitch.
Mais il va y avoir des arc-en-ciel, si je l'avoue, par exemple.
Ben, il y en a partout, là, tu sais. Anyway. Mais c'est là que ça revient à, tu sais, dans une gestion d'incident, là, c'est comme tu dis, là, on est en mode encore réaction, là, ça c'est pas mal la planie, là, la réaction, parce que là, les gens ont trouvé un semblant de normalité, mais tant mieux si c'est soutenu comme ça. Et j'en parlais encore dans une autre entrevue cette semaine, je faisais, où le, voyons ce qui est maintenant, tout ce qui est des infrastructures essentielles, là, ça a l'air beau, ça a l'air gentil, mais... S'il y a un autre pilier des 10 infrastructures essentielles qui commence à s'effriter, ça va mal aller vraiment. Parce que.
Ben, c'est les ressources, en fait, là, sur la nourriture, sur l'électricité, etc., qui, si ça s'affaiblit à cause du virus.
Ben, exactement. Là, parce que là, l'agriculture qui va commencer bientôt, là, je parle avec les fermiers là, ici au village, puis il veut dire la main-d'œuvre, c'est la première étape qui manque. Mais après ça, c'est l'aliment. Se procurer toutes les matières premières, là, ils ont eu de la misère un petit peu, ça ressemble à s'établir, mais la priorité est tout autre. Là. Fait que tout ce qui était géré en temps, en just in time, je cherche le mot français pour ça, mais là, c'est faut que tu planifies vraiment très loin à l'avance pour être capable d'avoir ton stock pour t'assurer que ça fonctionne. Puis là, ben, c'est pas du stock médical, fait que ça devrait passer vite, mais...
Ouais. Mais on se rend compte quand même qu'il y a énormément, puis ça aussi, ça va être tout le concept de réponse à un incident, mais tout le backup d'avoir des choses en double, d'avoir mais des...
Merci, c'est là que je m'en allais, Pat.
Oui, ouais, je sais, c'est ça. C'est un méga enjeu qu'on se rend compte que la majorité des entreprises qui font des milliards
ben oui.
sont pas capables de gérer leurs milliards pour avoir t'en fait deux mois.
Hein. Te faire rire, Pat, quand je suis arrivé en 95, je travaillais au quartier général du secteur. Ça, c'est l'organisation militaire qui gère le secteur du Québec au complet. Puis, en 97, on faisait des... À chaque temps en temps, là, à moins que tu sois pas fin, t'en faisais plus souvent, mais tu étais en devoir pour aller être capable de surveiller la bâtisse, t'assurer que l'intégrité physique de la bâtisse était là, tout ça. Puis, un soir, ben la soirée était longue. J'ai commencé à regarder un peu partout. Il dit, bon, on doit avoir des stocks si jamais il arrive quelque chose, tu sais, parce que à ce moment-là, le quartier général, il était au coin d'Atwater et Sherbrooke, en plein centre-ville de Montréal. Fait que, considérant. Puis après ça, ça s'est validé. Bon, ma théorie s'est validée avec le verglas. Parce que tu es en plein centre-ville. Si tu cordon off, autrement dit, s'il y a quelque chose de grave qui se passe, t'es tout seul. La base de Longue-Pointe, là, est à 5 km plus loin. Il n'y a personne qui va venir te chercher, tu sais. Puis, ben, j'étais capable de faire atterrir le dernier hélicoptère. Il y avait une cour assez grande pour ça, mais pas un gros, là. Vraiment un petit Kaira. C'était bien drôle. Anyway. Là, je commence à regarder partout. Il y a une cave, tu sais. Il y avait un gros réservoir de diesel. Ah, tabarouette, t'as droit à une génératrice en quelque part. Mais non, tabarouette, c'est une petite affaire. OK, il doit y avoir des lits de camp pour qu'on reste ici, des caisses de rations pour qu'on puisse manger, être autonome au moins une semaine. Zéro! Pas même pas de cordes de laine. Tabarouette, attends un peu. Fait que là, je soumets ça à ces gens-là et dis, hey, comment est-ce qu'on se défend ici, là, s'il arrive quelque chose, ben, ça part, arrête donc, gros, tu n'en fais pas rien. Ah oui, mais on a-tu, si jamais ça commence à vraiment virer de bord, on a-tu des boucliers, une matraque, qu'est-ce qui suffit, des armes à feu, rien? Oh non, non, ils vont venir nous aider, la police, tout ça. Tabarnan! Puis comme de fait, en 98, right. quand il est arrivé le verglas, moi, après 4 jours, j'ai pu sortir, j'ai été retrouvé. Je débarque là-bas, ils mangeaient vraiment avec des petits réchauds au sterno, avec des cannes que quelqu'un avait amené de chez eux parce qu'ils étaient pognés à vivre là, sans des opérations, gérer le déplacement de toutes les ressources au Québec. Je suis parti à Ré quand je les ai vus. Je vous l'avais dit, ma gang de Vera, hein? Hey, de quoi tu parles? Hey, vous avez tout dit ça le deux ans, là. Vous avez amené ça à un niveau opérationnel. Là, on est en opération, vous avez fuck off, vous avez l'air des espoles.
C'est la même chose qu'en informatique. Tant que quelqu'un ne se fait pas faire une brèche, il n'investit pas en sécurité. C'est le même concept, là. Puis là,
on planifie toujours pour la brèche passée. Ah oui. Je peux regarder, disons, le meilleur exemple que fait énormément les médias, le 11 septembre. Le 11 septembre, on a mis des mesures qui servent qu'à protéger contre une réplique du 11 septembre.
L'affaire avec les frontières.
Ne prépare pas contre ce qui pourrait venir après. Et les terroristes, by the way, sont un petit peu brillants et qu'ils font rarement deux fois la même chose.
Ils regardent YouTube, eux autres aussi,
ils font la même chose. Oui, c'est ça. Tu sais, la mesure qu'ils ont mis en place, on va fermer les borders parce qu'ils ont fait ça au 11 septembre. Non, au 11 septembre, il est en avion, c'est ça le concept, là. C'est un virus. Là. Il est déjà ici, le virus. Là. C'est pas la même game. Je dis pas que c'était pas important, mais la logique en arrière qui était apportée, c'était le 11 septembre. C'est comme, oh, on va répliquer. C'est comme, non, il est déjà ici, le virus. C'est faut tu mettre d'autres règles. Là. Pense à d'autres choses avant de mettre ça.
On a beaucoup, beaucoup d'autres choses. On a dépassé largement la gestion d'incidents. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la gestion d'incidents en temps de confinement?
Ben oui, parce qu'on a oublié le concept que pas toute information est bonne à savoir et doit être publique. Parce que dans une gestion d'incidents, à un moment donné, surtout pour une compagnie qui est cotée en bourse, c'est peut-être intéressant que l'information reste à l'interne d'un certain cercle. Puis après ça, le gars des coms va produire son statement, puis il va aller aux nouvelles, puis il va dire qu'est-ce qu'il a à dire. Alors donc, gérer l'information à l'intérieur de la cellule de crise, c'est quand même très important. Puis présentement, il n'y en a pas. Tout se change publiquement. Il n'y a aucun moyen de chiffrement utilisé pour garder l'information confidentielle, puis s'assurer que tout le monde, juste les personnes qui se doivent de recevoir et traiter l'information, la reçoivent. C'est dilapidé à gauche, pas à droite, c'est les médias sociaux, name it. Tout le monde met de l'information propriétaire, pour pas dire confidentielle, partout ce qui pense que c'est correct de l'avoir.
C'est un des plus gros enjeux qu'on a aujourd'hui, parce que tout est tellement plus informatisé, pour faire le lien avec le 11 septembre.
Ouais.
Il y a tellement trop de réseaux sociaux et de communication que, tu as de la désinformation, là, mais tout spread de tout bord de tout côté. Puis même si c'est juste de la vraie information, c'est comme des morceaux éparpillés. Fait que comment avoir l'histoire complète, c'est tough. Puis quand tu le dis justement à l'intérieur d'une entreprise, contrôler le message, c'est pas juste pour contrôler pour pas que, mettons, la compagnie en bourse crash. C'est parce que faire de l'attribution pour trouver c'est quoi, c'est pas en 5 minutes. Là, t'sais. Faire un retour sur l'incident, le post-mortem, le threat hunting, oui, tu peux encadrer l'incident puis dire qu'il est corrigé, mais qu'il est contrôlé puis qu'il n'y a pas de problème. Il ne peut plus avoir de problème futur. Mais de dire d'où ce que ça vient, le bug, comment le corriger, etc., si c'est une application, si c'est un phishing, si c'est du social, peu importe, ou des fois tout ce mélange-là. Des fois, on parle de semaines, voire de mois. Là.
C'est pas, encore une fois, pour faire cultiver le secret encore là. La sécurité par l'obscurité, je vous l'ai toujours dit, exact, je n'y crois plus. Mais il y a une façon de le présenter. Puis quand c'est des fragments d'informations, c'est là que ça part des rumeurs puis ça s'en va dans toutes les directions. Donc, pour être capable d'arriver avec une histoire complète et concise, faut ramasser ces partialités d'informations, puis que les bonnes personnes la traitent, puis à ce moment-là, génèrent un message officiel. Puis une compagnie, quand tu es en bourse, tu n'as pas le choix, faut que tu divulgues qu'est-ce qui est arrivé, parce que s'il y a une enquête par la suite, ils ne sont pas capables de corroborer ce que tu as toi dit publiquement, ils sont fait taper sévèrement ses doigts comme compagnie. Anyway, ça, c'est une façon de le voir, mais ça fait partie de ce cycle-là. Puis si tu ne le fais pas de la bonne façon, ben c'est là que tu vas contribuer. En anglais, on dit you'll contribute to your demise, donc tu vas contribuer à ton déclin.
Oui, exact. Puis je pense que l'autre point que tu as dit, ben, c'est la gestion des données à l'intérieur d'une équipe de crise qui est distribuée sur plusieurs endroits, donc présentement, ouais. Là, travail à distance. Oui, il faut avoir de la gestion de documentation chiffrée, mais centralisée et accessible à tous de manière facile. Puis avoir des backups de ça. Quand je dis backup, c'est pas juste une copie de la donnée, mais de plusieurs moyens de communication. T'sais, si vous utilisez, exemple, bidon, un Dropbox ou un SharePoint, ben, si du jour au lendemain, il y en a un des deux qui ne fonctionne plus, parce que présentement, on voit beaucoup de DDoS qui arrivent. Là. Il y en a beaucoup qui tombent du jour au lendemain comme ça, puis sont off. Et s'ils sont off dans l'heure que tu en as de besoin, ben, il faut que tu aies d'autres choses. C'est la redondance, ça va là aussi. Oui, ben c'est avec Teams puis Webex, je pense.
Webex, oui, là, je pense que c'est la semaine passée ou les deux semaines.
Mm-hmm.
Puis justement, c'est quoi ton plan B? Puis il n'y en a pas justement assez de documentation pour identifier c'est quoi le plan B et es-tu testé, puis quand est-ce qu'il est testé? Puis...
Oui, exact.
Qu'est-ce qu'on parlait tantôt? La préparation avant tout ça. Ouais. Et une fois que cette préparation-là, elle a été validée aux 6 mois, peut-être 3 mois. Et là encore là, ben, ça m'entendez parler de temps en temps, tu sais, des niveaux des états de préparation. Là. Anciennement, j'ai été élevé avec le système de conditions d'information, l'Infocon. C'était avec des lettres, là, c'est rendu avec des chiffres. Mais ça donne justement l'état de préparation qu'il doit y avoir. Quand c'est routine normale, veut dire les oiseaux gazouillent, pour dire qu'ils tweetent aujourd'hui, mais ça y va de cette façon-là. Alors que quand ça commence à sentir pas bon, puis ça s'en va dans la fan, ben c'est là qu'il faut peut-être aller considérer d'augmenter le niveau de préparation, refaire des vérifications plus serrées. Et je le vois pas, ça, de déployer nulle part. J'ai demandé à des comparses à défense ou ce qu'ils en sont. J'ai pas eu de nouvelles encore, mais ils doivent pas l'implanter de façon très serrée. M'a dit honnêtement, là, ça me donne ça comme impression.
Mm-hmm. Ce qui est quand même drôle aussi, qu'on parle beaucoup plus gouvernement, c'est que le niveau, ce qui était beaucoup la mode de sécurité, puis là, je sais un peu moins dernièrement, mais c'était les plans de relève. Il y en avait, puis tout le monde était expert là-dedans. Je ne dis pas qu'ils testaient tout, puis que ça marchait, mais je veux dire, il y avait beaucoup, beaucoup de choses là.
Je confirme, ils testaient pas.
Oui, je sais. Mais la partie gestion d'incidents, qui est similaire, tout ce qu'on parle là est similaire à un plan de relève, là, finalement. Tu sais, c'est du backup puis de la redondance. Elle n'a jamais principalement été mis en place, là, que ce soit cloud ou non. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est manquant. Puis l'autre point que je voulais apporter, tu disais, je te reparlais des exercices. Les exercices que j'expliquais au début du podcast, de dire on fait un tabletop, on fait un vrai exercice avec un vrai malware, peu importe. Nous, on fait ça à chaque quart de l'année. C'est 4 fois par année minimum. S'il n'y a pas des choses qui nous disent qu'il faudrait en faire plus parce que, mettons, le système, on n'a pas de connaissances, il faut voir comment on gère ça. Et le point intéressant, c'est qu'on testait généralement, on faisait par exprès pour tester des choses qui n'étaient pas dans les playbooks. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas faire de tabletop sur tes playbooks, il faut le faire. Mais les choses qui ne sont pas dans un playbook, tu fais un tabletop ou un exercice réel sur ça, sans planification aucune, oui. Et tu vois ton playbook de gestion d'incidents génériques, parce que tu as quand même des étapes. L'incident commence, tu as comme 10 trucs à faire, tu as le 5-minute playbook qu'il appelle.
C'est ça.
Fait que tu as comme les cinq premières minutes de qu'est-ce qu'il faut faire. Tu ouvres une cellule de crise dans une salle, que ce soit virtuel ou non, etc. Tu invites le monde et tout. Et tu as quand même de la logique. Tu as toujours de la logique. Là. Fait, c'est ça, c'est un mindset un peu inverse d'un hacker. Là. C'est du hacking, mais de retrouver les parties qui sont impliquées. Et on a fait ça à un moment donné sur une partie que personne n'avait testée. Zéro. C'est jamais de discussion, aucun rien. Et surprenamment, les personnes qui l'ont testé, je pense qu'en 2 heures, avaient géré la situation. Dans le post-mortem, il était en mode panique totale, du genre j'ai foiré ça et tout, je savais pas quoi faire. Puis, là, faut que tu gères évidemment certaines personnes avec plus je veux pas dire santé mentale, là, mais...
Diplomatie et de tact.
Ouais. Il y en a qui prennent les choses différemment, là, fait que c'est ça. Faut pas que tu sois méchant, mais en même temps, c'était l'inverse. C'était comme, non, c'est awesome, tu t'es planté à telle place, mais c'était ça l'exercice, il fallait que tu te plantes là. Si tu te plantais pas, ben, good job, tu sais, je veux dire. C'était la log du débutant, au pire. Mais c'était ça le but, puis c'était de voir pourquoi que tu t'es planté là. Puis même si nous, on a guessé que ça allait être ABC, dans le réel, c'est jamais ABC. Là. C'est souvent quelque chose d'autre qui dépend de quelqu'un d'autre, d'un autre système, etc. Puis ça, c'est ça que tu documentes dans ton playbook. Puis là, tu as un nouveau playbook que tu vas retester plus tard, etc. Fait que ça, c'est vraiment important de le faire et non pas juste tester ce que vous connaissez. Je me souviens plus du nom de ce phénomène-là. Mais il y avait une image sur LinkedIn là, qui montrait un avion qui s'est fait tirer durant la guerre. Puis là, le monde disait « Ah! L'avion est revenu, on va renforcer les points où c'est qu'il y a eu des tirs dessus. » Non. L'avion est revenu, donc c'est les points qui... C'est assez fait tirer aux places qu'elle l'a pas tué. Fait qu'il faut que tu renforces les parties non visibles d'où c'est qu'elle s'est fait tirer. Fait que t'as comme ce concept-là qui embarque souvent dans le incident response. Il faut faire attention, c'est biaisé à fond. Le mental et nos routines nous biaisent très facilement.
Effectivement. Très intéressant. On va clore là-dessus. On a déjà fait quand même une bonne heure de discussion. Steve est étonné que ça fait juste une heure qu'on parle.
Je pense
que
ça fait 5 minutes.
C'est toujours aussi agréable. C'est sûr qu'on va reparler encore de ce genre de sujet-là. C'est pas terminé. J'ai bien l'impression que le confinement va nous amener encore pendant quelques mois à la maison. Donc, on devra être plus imaginatif comment on va gérer ces crises-là. C'est sûr, là, on vous invite à nous communiquer, à partager vos informations. On va sûrement en parler pendant le live. Et d'ailleurs, cet épisode va sortir après le live qui s'en vient. Mais on va ressolliciter puis on espère que cette collaboration-là va amener les gens à pouvoir voir autre chose, pouvoir amener des idées nouvelles. Donc, contribuer puis aller aux activités du mercredi soir du Hackfest. C'est une belle place justement pour échanger ce genre d'informations-là, partager vos connaissances puis d'améliorer le sort de tout le monde. Donc, monsieur, un mot de la fin?
Restez chez vous.
Lavez-vous les mains.
Bon, ça résume vraiment tout ce que je voulais dire. Fait que sur ce, au prochain épisode.
À merci.
Salut.